Bonsoir tout le monde. Nous sommes le 2 novembre 2020, une session ordinaire du Conseil de la municipalité du canton de Stanstead via vidéoconférence. Sont présents Mme Louise Hébert, Mary Cartmell, ainsi que M. Jean Desrosiers, Christian Laporte, Andrew Rettles et Claire Martineau, tous formant quorum sous la présidence Francine Parot-Markwell. La directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Josiane Hudon, est également présente conformément aux dispositions du Code municipal. Donc, je procède à l'ouverture de la séance. Il est 17h25. Et pour débuter, j'aimerais remercier les pompiers qui ont été sur place à la caserne de Fitch Bay le soir de l'Halloween pour donner des bonbons, et ce, de façon bénévole. Merci à vous. Aussi, cette semaine, c'est la semaine des proches aidants. Il y a sûrement dans notre population beaucoup de aidants. Donc, merci à vous tous. Bon. Entendu le décret 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, attendu les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 4 novembre 2020, attendu l'arrêté ministériel numéro 2020-029 du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Attendu que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Attendu qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance vidéoconférence. Il serait proposé que la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Proposé par Mary, appuyé par Pierre. Adoption de l'ordre du jour et proposer que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. Proposé par Jean, appuyé par Andrew.
Il y a des modifications à l'ordre du jour?
Est-ce qu'on enlève un point ou...
Ben en fait, oui, il y a le point 13.1 qui est reporté.
OK.
Puis il y a aussi l'ajout là, dans le barrière, là, 15.1 là, pour la demande du centre de santé Vallée Massawippi. Rapidement, comme ça, c'est ce qui me vient en tête.
Fait que ceux qui ont proposé et secondé, vous êtes toujours d'accord? Oui. Adoption des procès-verbaux. Il est proposé que le procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020 soit adopté tel que déposé. Proposé par Louise, appuyé par Christian. Suivi de la dernière assemblée publique du Conseil. C'est pas vraiment un suivi de la dernière assemblée, mais c'est plutôt un suivi concernant le référendum, le résultat du référendum. Donc, juste un petit aperçu, le conseil, ce que le conseil prévoit faire, une des premières choses, c'est d'impliquer des citoyens ouverts et positifs pour avoir un peu leur son de cloche, un peu ce qu'ils voient comme issue à ce dossier-là. Aussi, de demander à nos architectes de revoir les plans pour nous indiquer où on pourrait diminuer les coûts, parce que ça semble être pour certaines personnes une question qui se pose aussi, la notion des coûts. Et aussi une discussion avec la régie pour la question du montant pour la location, essayer d'avoir une entente de principe qui probablement nous aiderait énormément à financer le projet futur. Donc, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous voulait rajouter quelque chose, vous êtes les bienvenus. Non? C'est beau? Donc, on va continuer la séance. Compte rendu de l'Assemblée de la MRC de Memphremagog, qui a eu lieu le 21 octobre. Donc, au niveau du développement économique et culturel, il y a le Fonds d'aide d'urgence aux PME, petites et moyennes entreprises, Mais à ce jour, il y a 1 024 065 $ qui a été investi dans des entreprises de la région. Puis la MRC dispose d'un peu plus de 600 000 $ dans ce budget à l'heure actuelle pour fin de prêt. Au niveau du patrimoine culturel, l'ensemble du matériel relatif à une formation qui a eu lieu sur le patrimoine par la firme consultant patrimoine culturel et en muséologie Bergeron-Gagnon reste disponible sur demande. Donc, les gens qui n'ont pas pu participer à cette formation-là peuvent demander à la MRC et avoir les documents. L'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, cette entente actuelle qui se termine le 31 décembre, la MRC a confirmé son intention de conclure une autre entente triennale qui inclut une demande de contribution de la part du ministère pour un montant de 40 000 $ par année, soit 120 000 $ sur 3 ans. Avant, c'était 30 000 $ par année, mais là, la MRC a augmenté sa demande à 40 000. L'approbation des programmes de soutien financier aux initiatives culturelles de la MRC de Memphremagog, il y a 7 projets qui ont été déposés. Et je vais les dire rapidement, Atelier de verre des collines, vitraux hors les murs, 2650, Club La Missisquoise, l'arc-en-ciel mobile d'Eastman, 6325, Comité du patrimoine d'Ogden, une brève histoire d'Ogden, 5000 $ la Maison Mary, des Abinaki dans les cantons de l'Est, 5000 $ la Société d'histoire de Georgeville, documentaire sur l'histoire de l'auberge de McGowan, 1500 $ Louise Abbott, artiste, Sur la Terre, Out on the Land, 2230. Orford Music, rencontre unique, 15 000 $ C'est un transfert du fonds Région Ruralité parce qu'il avait accepté de transférer un 30 000 $ au comité culturel pour être capable de donner plus de fonds à des organismes. Le fonds Région Ruralité, la municipalité du canton de Poitton, restauration de la grande jambe de Mansonville, 72 850. Encore municipalité de canton de Poitton, c'est aménagement du parc André Gagnon. C'est 37 699. C'est une piste d'habileté et deux pistes à rouleaux à cet endroit. Municipalité du canton de Stansted, salle multifonctionnelle, 150 000 $ une salle qui devait être annexée à la nouvelle caserne et qui servirait entre autres à des fins communautaires. Donc, c'est un dossier qui reste à suivre. Municipalité du canton d'Offord, pavillon communautaire d'Offord, 150 000 $ pour un pavillon communautaire. Et le pavillon communautaire coûte estimé à 1 700 000 $ Ça coûte presque aussi cher qu'une caserne. Société d'agriculture du comté de Stansted, un parc de bénévoles. Ça va être 20 000 $ pour l'aménagement d'une œuvre d'art dans le but de souligner le travail effectué par des bénévoles à l'exposition de Byerscliff depuis 175 ans. Ça a été priorisé parce qu'il n'y avait pas assez d'impact dans les milieux ou trop peu de liens avec les orientations de la politique. Il y a l'Association des résidents pour la protection de l'environnement du lac d'Argent qui avait demandé 20 835 et c'était pour un plan d'action visant à protéger la valeur écologique du lac. Ville de Magog avait demandé 19 880 pour la mise sur pied d'un programme de parrainage en gestion des matières résiduelles. Donc, non priorisé. Au niveau d'aménagement, plan régional des milieux humides et hydriques, il y a un mandat qui a été donné pour accompagner la MRC à la firme Niska de Sherbrooke. La révision du schéma d'aménagement et de développement durable. La présentation et le dépôt du premier projet de révision et de développement durable au maire aura lieu ce mercredi, donc cette semaine, en présentiel, parce que c'était trop difficile de nous présenter ça par Zoom. Développement durable, gestion des matières résiduelles. Normalement, on avait un gala des bons coups en février, mais à cause de la COVID, ça va être reporté à un moment ultérieur en 2021. Une rencontre avec les municipalités a eu lieu le 20 octobre. Les points de discussion étaient les suivants. Les actes de sensibilisation prévus au plan de gestion des matières résiduelles, les besoins des municipalités au niveau de la sensibilisation en gestion des matières résiduelles, des outils, des messages, puis arrimage possible entre les municipalités et la MRC. Plastique agricole, le Récupestrie a prévu à son budget les coûts de traitement pour le plastique agricole. Donc, il sera possible d'acheminer les matières provenant des points de dépôt vers une entreprise de la MRC du Haut-Saint-François. Certains détails restent à finaliser, puis les municipalités concernées vont être tenues au courant. Mais je ne pourrais pas vous dire si on est une municipalité concernée. Je ne pense pas qu'on en ait tant que ça, mais reste à voir. Révision du PGMR. Le projet de PGMR a été jugé conforme aux exigences de la loi. Donc, la MRC va procéder à l'adoption du règlement édictant le PGMR lors du conseil de novembre. Au niveau de l'environnement, la moule zébrée, les résultats du rapport du Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes vont être présentés à l'atelier de travail du conseil de novembre à la MRC. La MRC et ses partenaires dans ce dossier assisteront à la présentation des résultats d'une analyse des risques socio-économiques de la moule zébrée dans le lac Memphremagog le 23 novembre. Vermont et Coventry. La MRC a participé à une rencontre de transfert d'informations pour assurer une bonne continuité dans des dossiers impliquant le fédéral en prévision du départ de Mme Bello, qui était l'attachée politique de Mme Bibeau. C'est M. Fonda qui va remplacer Mme Bello. Les dossiers abordés durant la rencontre sont les suivants: la réception et analyse du rapport de la CMI par le fédéral, le suivi du site d'enfouissement de Coventry et de la table de discussion des acteurs politiques canadiens, le déversement d'eau usée à Newport. La MRC s'est inscrite à l'application de l'Agency of Natural Resources of Vermont, qui permet d'être averti lorsqu'un déversement d'eau usée est déclaré. Plan d'action en environnement 2021-2025. Une présentation à l'atelier de travail du Conseil d'octobre avant d'être soumis pour consultation aux municipalités, organismes régionaux œuvrant en environnement et citoyens. Une pré-consultation municipale a eu lieu auprès des inspecteurs en environnement le 1er octobre. L'objectif est d'adopter le plan en janvier 2021. Adoption du budget 2021 de la Régie de récupération de l'Estrie, tel que soumis après adoption par la Régie de récupération de l'Estrie le 29 septembre dernier et prévoyant des revenus et dépenses de 5 982 500 $. Sécurité publique, sécurité incendie, coordonneur Incendie travaille avec les autorités de la région Memphremagog-Est et la ville de Magog afin d'optimiser la location des casernes, le tout en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique. SUMI, qui veut dire service d'urgence en milieu isolé, une rencontre des parties prenantes du SUMI impliquées dans les interventions dans le secteur nord de la MRC est prévue le 29 octobre prochain, donc c'est passé. Protection policière, encadrement des chiens. Suite aux commentaires reçus par les municipalités, la SPA a effectué quelques modifications de son règlement modèle. La nouvelle version comprend notamment le préambule identifiant les articles du règlement qui feront également l'objet d'une application par la SQ, une numérotation uniformisée pour l'ensemble des municipalités de la MRC desservie par la SQ. Le nouveau modèle de règlement sera transmis directement par M. Pelto aux municipalités. L'adoption du règlement est souhaitée pour le Conseil de décembre. Enveloppe financière liée à la légalisation du cannabis. Cette enveloppe qui a été offerte par le MAMASH pour des projets en lien avec la légalisation du cannabis, ce qui inclut la sensibilisation et la prévention. Elle doit être utilisée d'ici juin 2021. Le programme cadet de la Sûreté du Québec. Suite au bilan de la saison 2020, le comité administratif a, par résolution, signifié l'intérêt de la MRC pour le programme 2021. Au niveau des communications, annonce de l'arrivée de M. Stephen Cabana à titre de directeur du développement économique. Son début est prévu en 2020. Non, c'est pas vrai. Excusez-moi, c'était un bout de phrase qui n'appartenait pas là. Donc, période de questions de l'assistance, je n'ai reçu aucune question. Dépôt de la correspondance du mois. La liste de la correspondance reçue au cours du mois est déposée aux membres du conseil. La correspondance sera traitée conformément aux indications du conseil. Aménagement et urbanisme. Le dépôt du rapport sommaire d'émission de permis est déposé aux membres du conseil. Dépôt du rapport d'inspection forestière du mois d'octobre est aussi déposé aux membres du conseil. dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, des procès-verbaux des réunions du comité d'urbanisme du 14 et du 28 octobre dernier sont déposés aux membres du conseil. Je vais maintenant laisser la parole à M. Christian Laporte pour les demandes de PIA et les dérogations mineures.
OK, bonjour. On a une demande de PIA pour le lot 4 922 146 au 4680 chemin de Georgeville. Attendu que le propriétaire du lot au 4680 chemin Georgeville en zone CC1 a présenté un projet d'addition d'un bâtiment accessoire de type remise. Attendu que la zone visée est soumise à un plan d'implantation et d'intégration architecturale de type 2. Attendu que le comité consultatif en urbanisme a pris connaissance des faits et recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande de PIA telle que présentée. Il est donc proposé que le conseil municipal appuie la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la présente demande de PIA telle que présentée. Proposé par...
Qui propose? Jean? Appuyé par... Andrew.
OK. 8.5. Demande de dérogation mineure pour le lot 4 923 432 au 456 Alger Nord. Attendu que le propriétaire du lot au 456 Alger Nord en zone VE1 a demandé 6 dérogations mineures afin de implanter un agrandissement portant la marge de recul avant de 3,2 mètres entre le bâtiment principal et la ligne de l'eau avant, alors que le règlement de zonage stipule une marge de recul avant minimale de 7,5 mètres entre le bâtiment et la ligne de l'eau avant. De permettre un agrandissement de 42,7 mètres carrés sur une dimension totale de la maison existante de 59,3 mètres carrés, portant l'extension de la construction dérogatoire à 72%, alors que le règlement de zonage stipule qu'une extension d'une construction dérogatoire protégée par droit acquis ne doit pas excéder plus de 50% de la superficie existante. De faire un agrandissement sur deux étages, alors que la marge de recul avant minimale de 7,5 mètres n'est pas respectée, alors que le règlement de zonage stipule qu'il n'est pas permis d'ajouter un étage à un bâtiment dont l'implantation ne respecte pas la marge de recul avant minimale. Dans la rive du lac, de modifier la toiture, hauteur, orientation, pente, alors que le règlement de zonage stipule que sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, il est interdit de faire quelques modifications que ce soit à une construction qui s'y trouve, sauf les travaux d'entretien et de réparation, les travaux de rénovation intérieure, les travaux de revêtement extérieur et les travaux de fenestration. De débuter l'agrandissement à 15 mètres de la ligne des hautes eaux, alors que le règlement de zonage stipule qu'un règlement existant, qu'un bâtiment existant qui ne respecte pas les distances minimales édictées à l'article 12.5.1 sur la protection des rives marge de recul d'un bâtiment, peut être agrandi si l'agrandissement se situe à plus de 18 mètres de la ligne des hautes eaux du lac. De refaire la galerie existante portant la distance de celle-ci à 8,42 mètres de la ligne des hautes eaux au-dessus de la rive, alors que le règlement de zonage stipule que sur ou au-dessus de la rive d'un lac, 15 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, aucun ouvrage ou travaux ne sont autorisés. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a pris connaissance des faits et recommande au conseil municipal de refuser les demandes telles que présentées au motif que la somme des dérogations combinées amène dans l'ensemble un projet beaucoup trop dérogatoire. Attendu que ces demandes portent sur une disposition qui peut faire l'objet d'une dérogation mineure en vertu du règlement sur les dérogations mineures numéro 217-2001 et qu'un avis a été publié conformément à l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lequel est remplacé par la consultation écrite conforme conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 durant la crise sanitaire en date du 16 octobre dernier. Il est donc proposé que le conseil municipal appuie les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et refuse les demandes de dérogation mineure telles que présentées pour le même motif. Proposé par
Jean, appuyé par Pierre. Est-ce que vous êtes tous d'accord?
Oui.
8.6. Demande de dérogation mineure sur le lot 4 923 477.
Excusez-moi, Christian. Je veux juste ajouter à après cette motion-là que j'invite les personnes qui ont fait la demande pour ces dérogations de parler avec notre inspecteur pour trouver une moyenne de faire le projet moins dérogatoire. Merci beaucoup.
Tu parles de quel cas? On était rendu au point sur le chemin Bissell ou tu parles de l'autre d'avant, là, hein?
L'autre d'avant
qu'on en ait voté.
OK.
C'est juste ça. On a parlé de ça dans notre caucus. J'invite les gens de le 456 AG de parler avec notre inspecteur. Merci.
OK. Je vais recommencer le point 8.6. Attendu que le propriétaire du lot 4 923 477 au chemin Bissell, zone VB1, a demandé une dérogation mineure afin de permettre une largeur minimale de la ligne du lot face à un lac de 55 mètres chacun pour trois nouveaux lots, alors que le règlement de lotissement à l'article 4.14 stipule qu'une largeur minimale de ligne de lot face à un lac doit être de 60 mètres. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a pris connaissance des faits et recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande de dérogation mineure telle que présentée. Attendu que cette demande porte sur une disposition qui peut faire l'objet d'une dérogation mineure et qu'un avis a été publié conformément à l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lequel est remplacé par la consultation écrite conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 durant la crise sanitaire en date du 16 octobre dernier. Il est donc proposé que le conseil municipal désapprouve la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la présente demande de dérogation mineure telle que présentée pour le motif que la BFIT est en surcharge en termes de capacité. Le fait d'émettre une dérogation mineure permettrait ainsi l'ajout d'un accès supplémentaire au lac, vient à l'encontre de la volonté du conseil de remédier au problème que fait face la baie. Proposé par, appuyé par
Louise, Pierre. C'est parce que je voulais juste rajouter, vous êtes tous d'accord, à la fin, ça pourrait causer un dangereux précédent. Qui restait, je ne sais pas, tu ne l'avais pas.
OK.
Donc, vous êtes tous d'accord?
Oui.
Demande de dérogation mineure pour le lot 4 923 333 au 24 chemin Bergeron. Attendu que le propriétaire du lot au 24 chemin Bergeron, zone BE2, a demandé deux dérogations mineures afin de permettre une marge de recul pour un bâtiment à la ligne des hautes eaux. Lorsque la profondeur moyenne du terrain est supérieure ou égale à 38 mètres, de 22,2 mètres pour un bâtiment principal, alors que la marge de recul minimale du lac prescrite pour tout bâtiment au règlement de zonage à l'article 12.5.1 aliéna 2.A est de 23 mètres. Une marge de recul avant minimale de 6 mètres pour un bâtiment principal projeté, alors que le règlement de zonage à l'article 5.9, grille F, stipule une marge de recul avant minimale pour un bâtiment principal de 7.5 mètres. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a pris connaissance des faits et recommande au conseil municipal d'accepter les demandes telles que présentées. Attendu que ces demandes portent sur une disposition qui peut faire l'objet d'une dérogation mineure en vertu du règlement sur les dérogations mineures et qu'un avis a été publié conformément à l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lequel est remplacé par la consultation écrite conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 durant la crise sanitaire en date du 16 octobre dernier. Il est donc proposé que le conseil municipal appuie les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et accepte les demandes de dérogation mineure telles que présentées. Proposé par
Mary, appuyé par Louise.
Okay. 8.8, demande de dérogation mineure du lot 6,295,887, chemin Colby. Attendu que le propriétaire du lot au chemin Colby, zone RURB1, a demandé deux dérogations mineures afin de permettre d'implanter et de construire un bâtiment principal à un endroit où la pente naturelle avant les travaux est de 25%, alors que le règlement de zonage 212-2001 à l'article 5.9 gris E, description des renvois G, note 4, stipule que la pente naturelle du terrain doit être inférieure ou égale à 15% à l'emplacement prévu pour le bâtiment principal. Dans un paysage naturel d'intérêt supérieur, une superficie maximale de déboisement d'un seul tenant est de 1200 m², comprenant le bâtiment principal, alors que le règlement de zonage stipule que dans un paysage naturel d'intérêt supérieur, la superficie maximale d'une aire déboisée d'un seul tenant est de 800 m². La superficie maximale totale de toutes les aires déboisées sur un même terrain est de 1200 m² et que lorsque la superficie totale des aires déboisées excède 800 m², la superficie déboisée destinée à l'emplacement du bâtiment principal ne peut excéder 600 m² d'un seul tenant. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a pris connaissance des faits et recommande au conseil municipal de refuser les demandes telles que présentées au motif qu'aucun projet concret n'a été déposé et manque de détails quant au projet de construction et de dérogation. Attendu que ces demandes doivent porter sur une disposition qui peut faire l'objet d'une dérogation mineure en vertu du règlement sur les dérogations mineures, lequel est remplacé par la consultation écrite conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 durant la crise sanitaire en date du 16 octobre dernier. Il est donc proposé que le Conseil appuie les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et refuse les demandes de dérogation mineure telles que présentées pour le même motif. Proposé par
Pierre, appuyé par Louise, vous êtes tous d'accord?
Oui.
Demande de dérogation mineure, le lot 4,923,685 au 251 chemin Bosquet-Fleury. Attendu que le propriétaire du lot 4,923,685 au 251 chemin Bosquet-Fleury en zone VB1 a demandé une dérogation mineure afin de permettre de mettre un second quai dans le lac en face de son lot, alors que le règlement de zonage stipule que pour chaque terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau, il est permis un seul quai privé, un seul abri pour embarcation et une seule plateforme flottante de natation non raccordée à la rive. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a pris connaissance des faits, et recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande de dérogation mineure telle que présentée, attendu que cette demande porte sur une disposition qui peut faire l'objet d'une dérogation mineure et qu'un avis a été publié conformément à l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lequel est remplacé par la consultation écrite conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 durant la crise sanitaire en date du 16 octobre dernier. Il est donc proposé que le conseil municipal désapprouve la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la présente demande de dérogation pour le motif que la BFICH est en surcharge en termes de capacité. Le fait d'émettre une dérogation permettrait ainsi l'ajout d'un quai supplémentaire au lac vient à l'encontre de la volonté du conseil de remédier au problème qui fait face au lac et cela pourrait causer un préjudice, un précédent dangereux. Proposé par
Pierre, appuyé par qui appuie? Louise. Vous êtes tous d'accord?
Oui.
Okay. 8.10, la dernière, demande de PIA pour le lot 4 922 968 au 836 chemin Sheldon. Attendu que le propriétaire du lot au 836 chemin Sheldon, en zone CB1, a présenté un projet d'addition de toiture sur le côté latéral droit du bâtiment principal. Attendu que la zone visée est soumise à un plan d'implantation et d'intégration architecturale de type 2. Attendu que le comité consultatif en urbanisme a pris connaissance des faits et recommande au conseil municipal de refuser la présente demande de dérogation telle que présentée, mais mentionne que le comité serait toutefois favorable d'accepter le projet si le requérant rencontrait certaines recommandations émises. Attendu que l'inspecteur a discuté avec ses recommandations avec le requérant et que ce dernier était en accord avec celle-ci. Il est donc proposé que le conseil municipal accepte la demande de PIA présentée par avec les recommandations émises du CCU suivantes, lesquelles ont été acceptées par le requérant. 1. Les poteaux, sablières et fermes de toit, l'ensemble de la structure de soutien, soit de couleur noire au lieu de bois naturel. 2. La toiture sera de couleur gris régent. 3. Toute la pruche du mur du fond, porte et barres, soit de couleur noire, tels que les poteaux de l'entrée principale, soit une couleur déjà présente sur le bâtiment. Il est proposé par...
Qui propose? Louise et Mary.
OK. Ben, je vous remercie.
C'était la moitié du PV ce soir. Offre de service, réorganisation du département de l'urbanisme et environnement. Attendu qu'il y a lieu de réorganiser le département d'urbanisme et d'environnement suite au retard accumulé et du roulement de personnel au fil du temps. Attendu que M. François Duquette, ancien inspecteur en environnement de la municipalité, lors de son passage à la municipalité cet été, a établi un plan de redressement et de réorganisation du département avec Dominique Gauthier, inspecteur en bâtiment. Attendu que M. Duquette a déposé une soumission pour ce faire. Il est proposé que le Conseil accepte l'offre de service de Perco Environnement pour le redressement et l'organisation du département de l'urbanisme et environnement pour un mandat variant de 4 à 8 semaines au taux horaire de 50 de l'heure. Proposé par Jean, appuyé par Pierre. Vous êtes tous d'accord?
Oui.
Offre de service pour la modification au règlement de zonage et de lotissement, création de nouvelles zones à même la zone VD1. Attendu la demande des résidents du domaine de la Tanière consistant à modifier le règlement de zonage pour créer une nouvelle zone à même la zone VD1 afin que l'usage de résidences de tourisme ne soit plus autorisé dans la nouvelle zone. Attendu que la municipalité a reçu une soumission de la firme EXP pour réaliser ce mandat. Il est proposé que le Conseil accepte l'offre de service de la firme EXP quant au mandat de modification au règlement de zonage et de lotissement en lien avec la demande à raison d'un taux moyen de 115 l'heure pour un budget approximatif de 1 500 taxes en sus. Proposé par Pierre, appuyé par Christian. Vous êtes tous d'accord?
Oui.
Demande d'exclusion de la zone AFB. -5 de la zone agricole. Attendu la demande d'exclusion de la zone AFB-5 située sur le chemin Sheldon pour y permettre l'utilisation à des fins résidentielles. Attendu que, conformément à l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, seule une MRC peut soumettre une telle demande, sous certaines conditions seulement, dont notamment lors de la révision de son schéma d'aménagement. Attendu qu'après vérification, il apparaît que le projet sera fort probablement refusé, il n'y a donc pas lieu de s'y attarder davantage. Proposer que le Conseil refuse la demande d'exclusion de la zone AFB5 de la requérante pour des motifs énumérés ci-haut. Proposé par Christian, appuyé par Mary. Vous êtes tous d'accord?
Oui.
implantation d'un programme triennal d'inspection des fosses, attendu qu'en cas de terrain avec une configuration particulière, terrain trop petit, puis trop près, où il est impossible de mettre un élément impurateur, la conclusion du test de percolation donne souvent un système tertiaire avec déphosphatation, attendu que l'article 53, paragraphe B du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, Q2R22, permet toutefois l'installation d'une fosse de rétention à vidange totale à la condition que la municipalité implante un programme triennal d'inspection de fosse afin d'en assurer l'étanchéité, attendu qu'il en coûte environ 30 000 $ plus un frais annuel entre 1 000 et 1 500 pour un système tertiaire avec déphosphatation, alors que l'installation d'une fosse scellée peut coûter environ 5 000 $ au total. Il est proposé que le Conseil instaure à l'interne un programme triennal d'inspection des fosses en lien avec l'article 53 du règlement Q2R22, que le Conseil mandate l'inspecteur en environnement pour la mise en place, l'exécution et le suivi du dit programme. Proposé par...
Excusez-moi. On, oui. Est-ce qu'on n'aurait pas dû préciser des fosses scellées?
Elle l'a dit.
Mais, oui.
Ouais, elle l'a dit. Elle a marché.
Il y a juste un endroit où on en parle. Le titre dit des fosses.
Ah, OK.
Et un peu partout, on parle des fosses, sauf un endroit où on parle de fosses scellées.
Mais fosses de rétention à vidange total, c'est une fosse scellée. C'est un autre terme. Oui. Dans le titre, je ne sais pas si ça vaut la peine de le mettre là, l'inspection des fosses scellées.
Mais ça serait plus précis.
Oui.
Parce que des fosses, il y en a partout, là.
Oui. Proposé par Jean, appuyé par qui appuie? Pierre. Vous êtes tous d'accord? Mandat quant à l'inspection et la caractérisation de systèmes d'installation septique non conformes. Attendu que la municipalité souhaite réaliser des inspections et caractérisations des installations septiques non conformes présentes sur le territoire dans l'objectif de connaître le potentiel de contamination de ceux-ci à l'égard du 4e alinéa de l'article 2 du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Attendu qu'en cas de non-conformité, les frais d'inspection devront être assumés par le propriétaire de l'installation, le tout conformément à l'article 17 du règlement numéro 380-2015 pourvoyant la vidange des fosses septiques. Attendu que la municipalité a reçu deux soumissions pour ce faire et qu'il s'avère que celle de Perco Environnement est la plus avantageuse pour la municipalité. Donc, il serait proposé que le Conseil accepte l'offre de service de Perco Environnement pour procéder aux inspections et caractérisations des installations septiques non conformes présentes sur le territoire dans l'objectif de connaître le potentiel de contamination de ceux-ci à l'égard du 4e alinéa de l'article 2 du règlement Q2R22. À raison de 450 $ par installation, taxe en sus, incluant les frais de déplacement, l'inspection et caractérisation des installations septiques non conformes, avec retour si applicable, ainsi que le rapport d'expertise, le tout conformément à la soumission datée du 29 octobre dernier. Avec le retour si applicable, le retour de quoi, je ne sais pas.
Je pense que plus s'il y a un suivi à faire.
Ah, OK.
C'est le même, c'est comme ça que je le comprends. Là.
OK.
J'ai repris les Donc, de la soumission.
OK. Donc, proposé par Pierre, appuyé par Louise. Vous êtes tous d'accord? Oui? OK. Environnement. Offre de service pour arpentage pour le lot 4 922 912 dans le cadre d'une demande de bail hydrique pour la rampe de mise à l'eau au parc Forain. Attendu qu'il y a lieu de faire la demande pour l'obtention d'un bail hydrique pour la rampe de mise à l'eau Parc Forain, attendu que pour ce faire, il est nécessaire de mettre à jour le plan des lieux préparé le 27 octobre 2019 sous le numéro 9323 en y ajoutant le quai et la descente à bateau ainsi que de localiser la rive du lac Memphremagog en établissant la cote de récurrence et autres travaux d'arpentage. Il est proposé que le Conseil accepte l'offre de service du groupe HBG Arpenteur Géomètre du 19 mars dernier pour la réalisation du mandat décrit ci-haut pour un montant variant de 2 400 à 3 400 selon les exigences demandées, le tout dans l'objectif d'obtenir un bail hydrique. Proposé par Mary, appuyé par Christian. Vous êtes tous d'accord? travaux publics et infrastructures, octroi de contrat de déneigement des immeubles municipaux de secteur Georgeville, attendu que la municipalité doit effectuer le déneigement de ses immeubles et l'épandage d'abrasifs pour la saison hivernale 2020-2021, attendu que la directrice générale a reçu une seule soumission pour le secteur de Georgeville, il est proposé que le conseil octroie le contrat pour le déneigement des immeubles municipaux du secteur Georgeville à Craig Markwell pour un montant de 9 500 plus les taxes applicables, que le conseil autorise et mandate la directrice générale ou en son absence, la directrice générale adjointe et la mairesse, ou en son absence, le maire suppléant, a signé pour et au nom du conseil le contrat. Proposé par Mary, appuyé par Pierre. Vous êtes tous d'accord? Octroi du contrat de déneigement des immeubles municipaux secteur Fitchway. C'est la même chose, la municipalité doit effectuer le déneigement de ses immeubles et l'épandage d'abrasifs pour la saison hivernale 2020-2021. Et la directrice générale a reçu une seule soumission aussi pour le secteur de Fitch Bay. Donc, il serait proposé que le conseil octroie le contrat pour le déneigement des immeubles municipaux secteur Fitch Bay à Excavation HF Côté pour un montant de 6 999 $ plus les taxes applicables, que le conseil autorise et mandate la directrice générale ou en son absence la directrice générale adjointe et la mairesse ou en son absence le maire suppléant à signer pour et au nom du conseil le contrat. Proposé par Jean, appuyé par Pierre, vous êtes tous d'accord? Okay. Programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Attendu que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application du volet particulier d'amélioration, PPA, du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de reddition compte V-0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide qu'il apparaît à la lettre d'annonce, telle qu'il apparaît. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, il est proposé que le conseil de la municipalité approuve les dépenses d'un montant de 87 140 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissible mentionné au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Proposé par Pierre, appuyé par Christian, vous êtes tous d'accord? Programme d'aide à la voirie locale sous projet particulier d'amélioration, projet d'envergure ou supramunicipaux. PPA-ES. Attendu que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application de ce volet, PPA et PAVL, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre, que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été rempli, que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2023 à compter de la troisième année civile de la date de la lettre d'annonce du ministre, que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide telle qu'il apparaît à la lettre d'annonce, attendu que l'aide financière est allouée sur une période de 3 années civiles à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre, attendu que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de 40 % de l'aide financière accordée pour le premier versement, 80 % de l'aide financière accordée moins le premier versement pour le deuxième versement et, troisièmement, 100 % de l'aide financière accordée moins les 2 premiers versements pour le troisième versement. Attendu que les travaux effectués après le 3e anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles, attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Il est donc proposé que le conseil de la municipalité approuve les dépenses d'un montant de 87 140 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Proposé par Mary, appuyé par Pierre. Ça en fait beaucoup de reddition de compte pour un montant de 87 000 $. Trésorerie et administration. Approbation des comptes payés et à payer. Il est proposé que le conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis pour le mois d'octobre 2020 et autorise la directrice générale à payer du fonds général les comptes fournisseurs pour le mois de novembre conformément à la liste approuvée. Total des comptes payés, 112 923 et 39. Des comptes à payer, 89 613 et 55. Que le conseil approuve aussi la liste des salaires pour le mois d'octobre 2020 pour un montant de 36 280 et 7 sous. Proposé par Pierre, appuyé par Louise. Vous êtes tous d'accord? Rapport de délégation de pouvoir.
Excuse-moi, je vais t'interrompre parce que le montant qu'on a là pour la délégation de Pierre-Luc, là, c'est pas bon, on l'a pas reçu.
Ah, OK.
Non.
Donc, c'est reporté au mois prochain?
Pour le sien, là, ouais.
Le sien, OK. Le rapport de la directrice générale, 118 $30 et le rapport du responsable de la voirie et infrastructure à venir. Dépôt des résultats définitifs du scrutin référendaire du 18 octobre 2020. La secrétaire trésorière dépose aux membres du conseil l'état des résultats définitifs du référendum du 18 octobre dernier portant sur l'approbation du règlement numéro 437-2020 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 2 409 430 et un emprunt de 1 900 000 pour la construction de la caserne incendie, le tout tel que prescrit à l'article 578 de la loi sur les élections et les référendums municipaux. Souper de Noël 2020. Attendu que les membres du conseil ont l'habitude de démontrer leur appréciation auprès des employés, des membres du CCE, du CCU, des pompiers et des membres du comité de loisirs en organisant un souper de Noël en décembre de chaque année. Attendu que les directives de la santé publique interdisant tout rassemblement en cette période de crise sanitaire. Attendu que le conseil souhaite tout de même offrir un présent à déterminer précisément ultérieurement en lieu et place du souper, il serait proposé que le conseil alloue un montant approximatif de 2 500 $ pour l'achat d'un présent pour les employés, le conseil, pompiers et autres membres de comité en remplacement du souper de Noël. Le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire numéro 02-11493, proposé par Pierre, appui d'argent. Vous êtes tous d'accord? Calendrier des séances du Conseil 2021. Attendu que l'article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune, il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2021. Ces séances se tiendront le premier lundi du mois, à moins d'exception, et débuteront à 19h30 ou à une heure différente, si tenues par vidéoconférence en raison de la pandémie, aux dates suivantes. 11 janvier, en raison de la période du temps des fêtes, 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 7 septembre, en raison de la fête du travail, qui est le 6 septembre, 4 octobre, 15 novembre, en raison des élections générales du 7 novembre, 6 décembre. Donc, OK. Qui propose? Christian, appuyé par Andrew. Je ne sais pas si c'était juste un dépôt ou une résolution. Fermeture du bureau pendant la période des fêtes, attendu que suivant le manuel de l'employé, ces derniers ont droit à 3 jours de congé pour Noël et 3 jours de congé pour le nouvel an. Attendu que selon ce qui précède, la mairie sera fermée au minimum les jours suivants, soit jeudi le 24 décembre, la veille de Noël, vendredi le 25, le jour de Noël, samedi le 26, le lendemain de Noël, repart dans la semaine suivante, jeudi le 31, veille du jour de l'an, vendredi le 1er janvier, jour de l'an, samedi le 2 janvier, le lendemain du jour de l'an, devancement dans la semaine du 28 décembre. Donc, il est proposé que le conseil décrète la fermeture du bureau municipal du 24 décembre au 1er janvier inclusivement et que la journée non fériée dans la semaine du 28 soit non rémunérée pour tous les employés, que le conseil confirme qu'aucun employé ne pourra travailler dans la période de fermeture du bureau à l'exception des employés de voirie selon les besoins de maintien des services essentiels. Proposé par Mary, appuyé par Louise, vous êtes tous d'accord? Appui au Festival des arts. Attendu que le Festival des arts, Georgeville et Fitchville, désire poursuivre ses activités, que le Festival désire faire une demande d'assistance financière auprès de Patrimoine canadien, que le Conseil appuie l'initiative du Festival, il serait proposé que le Conseil appuie la demande du Festival des arts du dépôt d'une demande d'assistance financière auprès de Patrimoine Canada, que le Conseil confirme sa participation financière à ce projet au montant de 1 500 $ pour l'année 2021, ainsi que la gratuité de la location de la salle dont la valeur est de 100 $ par jour. Proposé par Christian, appuyé par Andrew. Vous êtes tous d'accord? Formation sur la perception des créances municipales, c'est-à-dire vente pour taxes, pour non-paiement de taxes. Et proposer que le conseil accorde la dépense de 300 $ pour l'inscription de la directrice générale adjointe Caroline Gaulin pour assister à la formation offerte par l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec sous forme de webinaire en 2 séances de 3 heures chacune qui auront lieu en novembre et décembre prochains. Proposé par Pierre, appuyé par Jean. Vous êtes tous d'accord? Ouverture d'une marge de crédit dédiée au financement temporaire du programme de mise aux normes des installations septiques. Attendu qu'il y a lieu d'ouvrir une marge de crédit, laquelle sera dédiée au financement temporaire du programme de mise aux normes des installations septiques. Attendu qu'un montant de 300 000 $ semble approprié. Il est proposé que le Conseil autorise l'ouverture d'une marge de crédit annuelle. Marge de crédit, laquelle sera dédiée uniquement au financement temporaire du programme de mise aux normes des installations septiques pour une somme de 300 000 $, que le conseil autorise la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou en son absence la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents à ce titre. Proposé par Andrew, appuyé par Christian. Vous êtes tous d'accord? Demande de dons. Il est proposé que le conseil municipal verse un montant de 500 $ pour la Banque alimentaire Maprimagog suite à la réception de leur demande d'aide. Proposé par Jean et Pierre. Vous êtes tous d'accord? Mandat APG Solutions, entretien et soutien application. Attendu qu'il y a lieu de renouveler le contrat d'entretien et de soutien des applications pour 2021 auprès de PG Solutions. C'est un système informatique pour toutes les transactions qui se font à la municipalité. Il est proposé que le conseil accepte l'offre de PG Solutions pour la maintenance et le soutien annuel 2021 et autorise la dépense de 9 682 $ plus les taxes applicables. Proposé par Pierre, appuyé par Louise. Vous êtes tous d'accord? Renouvellement du contrat de Mme Nancy Vanasse à titre d'adjointe municipale, attendu que le contrat d'adjointe municipale de Mme Nancy Vanasse se termine le 27 novembre prochain. Attendu qu'il y a lieu de renouveler ce contrat afin que cette dernière puisse assister les inspecteurs dans le projet de redressement du département d'urbanisme et environnement, ainsi que les autres employés en administration. Il est proposé que le Conseil renouvelle le contrat de Mme Nancy Vanas lorsque celui-ci viendra à terme selon les mêmes conditions que son contrat initial à titre d'adjointe municipale pour une durée de 3 mois supplémentaires, que le montant de la dépense soit approprié à même les postes budgétaires concernés avec une proportion de 30 % en urbanisme, 30 % en environnement et 40 % en administration. Proposé par Pierre, appuyé par Mary, vous êtes tous d'accord? Hygiène du milieu, budget 2021 pour la régie intermunicipale de gestion des déchets. Attendu qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, le budget de la régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook doit être adopté par résolution par au moins les 2/3 des municipalités membres. Il est proposé que le Conseil approuve le budget 2021 de la régie des déchets, démontrant des revenus, dépenses et affectations équilibrées de 2 851 353. Proposé par Louise, appuyé par Christian. Vous êtes tous d'accord? Appel d'offres pour la cueillette, le transport et la disposition des matières résiduelles 2021-2022-2023. Attendu que la municipalité a procédé à l'appel d'offres public pour cette collecte, le transport et disposition pour les années 2021-2022-2023, attendu que la municipalité n'a reçu aucune soumission dans les délais prescrits. Il est donc proposé que le Conseil autorise la directrice générale à reprendre le processus d'appel d'offres public selon les modalités convenues, que la municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions déposées. Proposé par Mary, appuyé par Pierre. Vous êtes tous d'accord? Oui. Sécurité publique. Règlement, que ce sujet est reporté, c'est sur le uniformisé sur les animaux, c'est reporté à une séance ultérieure. Règlement sur la prévention incendie, avis de motion et dépôt. Quel conseiller donne avis de motion? Louise, OK. La conseillère Louise Hébert donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement portant le numéro 440-2020 intitulé « Règlement de prévention incendie » sera présenté pour adoption. Ce règlement aura pour objet d'uniformiser les dispositions relatives à la prévention incendie pour l'ensemble des municipalités membres de la région incendie S. Le dépôt du projet de règlement est effectué, lequel est disponible dès maintenant pour consultation. Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de règlement au plus tard 3 jours avant la séance et renoncent à sa lecture. Installation temporaire pour les pompiers. Attendu qu'il y a lieu de procéder à une installation temporaire pour combler certains besoins des pompiers, dont des toilettes, un bureau et le service de téléphonie et Internet, le temps de la construction de la nouvelle caserne. Attendu que l'installation d'une roulotte de chantier est l'option retenue, il est proposé que le Conseil autorise la dépense engendrée par l'installation d'une roulotte de chantier pour combler certains besoins pour le service incendie. Que le montant de la dépense soit approprié à même le montant de la location de la caserne provenant de la régie incendie S. Proposé par Jean, appuyé par Pierre. Vous êtes tous d'accord? Loisirs et culture. Présentation d'un projet dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique. Il est proposé que la municipalité autorise la présentation du projet de sentier panorama au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre de programmes de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité du canton de Stanstead à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Que la municipalité du canton de Stanstead désigne Mme Josiane Hudon, directrice générale, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. On peut peut-être ajouter que cette subvention-là pourrait couvrir 80 % des coûts qui vont être demandés. Donc, proposé par Louise, appuyé par Pierre, vous êtes tous d'accord? Daria, une demande d'aide financière pour le Centre de santé Vallée-Massawippi. Il serait proposé que le Conseil donne un montant de 1 000 $ au Centre de santé Vallée-Massawippi en raison de leur situation précaire. proposé par Jean, appuyé par Mary. Vous êtes tous d'accord? Okay. Donc, on serait rendu à la deuxième période de questions, mais je ne crois pas qu'on en a reçu. Donc, on est rendu au tour de table. Je vais commencer dans le même ordre que lorsqu'on est en présentiel. Donc, Pierre, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Non, rien à rajouter.
Non?
Bonne soirée à tous.
Jean?
Juste rassurer peut-être aux citoyens que on a pris acte des résultats du référendum et que dès mardi, d'ailleurs, passé, on a eu une rencontre pour commencer à voir pour la suite. On a rencontré certaines personnes et on va continuer à rencontrer des gens pour voir pour la suite qu'est-ce qui va se passer. Et on lâche pas, c'est sûr qu'on lâche pas le projet caserne. C'est une urgence, c'est un besoin. Alors, on va tout faire pour essayer de trouver le bon terrain d'entente, si je peux dire ça comme ça, là, mais de voir aussi répondre à nos exigences, nos besoins actuels et futurs. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous.
Andrew?
Just la même chose, but in English, I just want to let everybody know that we're still pushing ahead. We have 1 year left in our mandate, and I hope that we have shovels in the ground to start a caserne before the next election. It's very important for our firefighters. We'll move forward and work hard to try and find a plan that is acceptable. Thank you.
Yeah. Ah, t'as rien à dire? Non? On t'entend pas?
Ton micro est fermé.
Ton micro est fermé?
T'as rien à rajouter.
T'as rien à rajouter, OK. J'étais pas sûre. Okay. Louise?
Louise, ton micro est fermé aussi.
Louise? Et je demandais à Mary, puis si Louise revient, Mary?
Non, Francine, j'ai aucun commentaire en ce moment. Merci.
T'as aucun commentaire? Puis, Louise, OK, Louise?
OK, je m'excuse parce que là, l'électricité est coupée ici, là, tantôt.
C'est ça qui fait noir de même?
Oui, le vent, si vous entendiez le vent. Mais je veux renchérir avec ce que Jean a dit, puis Andrew, puis j'aimerais juste reviser pour que les citoyens comprennent bien notre chef pompier, étant donné que ça va prendre un an à voir, pour la caserne, notre chef pompier nous a demandé d'organiser les lieux pour qu'il y ait une installation plus conforme. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, ça s'est fait vite là, pendant la séance du conseil, mais on est tous d'accord, on va louer une roulotte pour les pompiers en attendant qu'on puisse avoir la caserne terminée. Alors, vous allez voir une roulotte aménagée dans le centre-ville de Fitchbay pour nos pompiers. Puis, deuxièmement, je voulais juste rassurer les citoyens. Je pense que il y a un consensus auprès du conseil puis auprès de la population. On veut vraiment avancer avec notre projet. Puis, j'espère qu'ensemble, on peut tourner la page et puis avancer maintenant de façon rapide. En tout cas, c'est ça. Alors, merci à tout le monde.
OK. Bon, moi, c'est un peu dans la même veine, c'est que j'espère, c'est sûr qu'on va être capable de vraiment travailler ensemble puis d'arriver à une entente pour arriver à répondre aux besoins de nos pompiers. C'est ça qui est l'essentiel. Ils ont des besoins, puis c'est des besoins criants, et ces besoins-là, s'ils ne sont pas rencontrés, c'est que ça a un effet sur toute la sécurité de notre population. Ça, c'est très, très important, parce qu'il faut vraiment que notre population soit en sécurité aussi. Donc, ça fait le tour. Fait que je pense que je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Fait que bonne soirée!
Bonne soirée! Ouais.